visible.
Visible.
C'est parti.
Mon invité pour ce nouvel épisode est une femme lesbienne tatouée, autrice du livre LinkedIn, Boost ta visibilité. Bienvenue Dorit Naon.
Salut Timothée, merci beaucoup de m'accueillir dans ton podcast, je suis ravie d'être avec toi.
Merci beaucoup. Alors justement, on va parler de ton livre. Ce sont 11 tutos qui permettent d'explorer davantage ce réseau social professionnel qu'est LinkedIn. Comment c'est venu ce livre ?
J'ai fait une caricature de lettres de motivation sur LinkedIn parce que je trouve que les lettres de motivation, c'est une hypocrisie pas possible. Tout le monde a besoin de taffer, tout le monde a besoin de faire de l'argent. Donc j'ai fait une lettre qui commençait par « Chère entreprise, je me tiens à votre disposition pour être votre larbin ad vitam aeternam, pour vous servir de repose-pied. » Et ça a cartonné sur LinkedIn. Ça a fait plus de 17 000 likes et les éditions Vuber, ils m'ont repéré comme ça en fait. Hein.
D'accord.
Ils sont venus m'envoyer un message pour me dire si j'étais intéressée pour faire des projets de livres avec eux. De là, on a discuté de l'angle et pour moi, c'était une évidence de faire un livre drôle. Je déteste les livres de formation, je trouve ça chiant, gris, ça donne pas envie. Et moi, je pense que la meilleure façon d'apprendre dans la vie, c'est d'apprendre en s'amusant. Donc, j'ai mis des conditions, j'ai dit oui, d'accord pour un livre de formation à LinkedIn, mais je veux des punchlines, je veux qu'il soit illustré. Donc voilà, il y a tout ça, il y a de l'humour, il est illustré par Billy. Je suis très contente parce qu'aujourd'hui, oui, j'aide les gens à développer leur LinkedIn, mais avec beaucoup de good vibes. Et pour moi, c'est très important.
Bah alors, surtout que tu n'es pas trop la personne qu'on attend quand on parle de LinkedIn. Je ne sais pas quelle image les auditeuristes ont de LinkedIn. On a chacun, je pense, la nôtre. Mais c'est vrai que tu es une meuf tatouée. Tu dis clairement que tu es lesbienne et tout. Et tu cartonnes sur LinkedIn.
Ouais, et j'adore casser les codes. C'est ma passion. Tu vois, pour moi, les engagements, ils ont leur place sur un réseau social professionnel. Je ne vois pas en quel honneur je cacherai mes tatouages sous prétexte que c'est un réseau social professionnel. Je ne vois pas en quel honneur je ne dirais pas que je suis LGBT+, sous prétexte que c'est un réseau social professionnel. Tout ça fait partie de la vie, tout ça fait partie de la société. Et il faut normaliser, justement, le fait d'être tatoué, le fait d'être LGBT+. C'est des vraies thématiques au travail. Et pour moi, de se dire « Non, LinkedIn, c'est un réseau professionnel, je vais cacher mes tatouages », c'est entretenir aussi cette forme de discrimination-là, qui d'ailleurs est interdite en entreprise. Oui. C'est interdit de refuser un candidat sur son apparence. Et au même titre, les LGBT-phobies, bah, ce n'est pas une opinion. C'est pénal,
ouais, c'est un délit.
Donc, quand on me dit « Oui, mais ce n'est pas professionnel ce que tu racontes », pas du tout, en fait. Attends, on travaille, on est dans la société, on est des personnes normales, même si le mot « normalité » ne veut absolument plus rien dire aujourd'hui. Mais pour moi, c'est une façon de se cacher derrière ces idées nauséabondes en se cachant derrière le mot « professionnel ». Mais en réalité, tant que tu es compétent et que tu as du potentiel, tu es professionnel.
Donc, mais en plus, tu cartonnes complètement, en fait. Tu cartonnes complètement sur LinkedIn.
Mais oui, c'est ça qui est cool. C'est que je ne sais pas si je cartonne de ouf, mais en tout cas, j'ai une belle audience. Et en seulement un an et demi, j'ai plus de 64 000 abonnés. Donc, la preuve en est, c'est qu'en étant soi-même, en étant authentique, en faisant de l'humour et surtout en ne cachant jamais tes engagements, bah, en fait, il y a un public pour ça et les gens, ils sont réceptifs. Tu vois, moi, j'ai des engagements féministes. Je parle du harcèlement de rue. Je parle du harcèlement scolaire, je parle beaucoup des LGBT+phobies. Et derrière, oui, j'ai une audience qui me suit, j'ai une audience qui me fracasse aussi, mais on retient le positif.
On en parlera tout à l'heure.
Bien sûr, on libère beaucoup la parole. Et derrière, moi aussi, j'ai des sollicitations. J'ai été sollicitée par la Fondation Le Refuge, qui héberge les jeunes LGBT+, mis à la rue par leur famille, qui m'a proposé d'être leur ambassadrice. J'ai été sollicitée aussi par l'association, excuse mon anglais, Flash Our True Colors, qui m'a proposé d'être la marraine de la Pride d'Amiens. Et ça montre que derrière, il y a des institutions qui sont là pour la visibilité LGBT+, sur LinkedIn, et qui sont aussi demandeuses de plus de visibilité. Il y a aussi le magazine emblématique Têtu, qui m'a sollicité pour faire mon portrait. On a aussi fait un article sur le pinkwashing, qui est un grand sujet en entreprise, surtout pendant le mois des Pride.
D'un coup,
tout le monde a des logos arc-en-ciel, ça tombe du ciel, alors que derrière, tu n'as pas d'action à l'année, hein, tu n'as rien, évidemment.
C'est ça.
Et tout ça, c'est nécessaire. Et bien évidemment, d'une part, ça fait partie de la société. D'une part, évidemment qu'aussi, c'est professionnel. Mais moi, je suis très heureuse, effectivement, d'avoir un public pour ces engagements-là sur un réseau social professionnel à l'époque où, justement, on peut penser qu'être professionnel, c'est quoi ? C'est être lisse et finalement ressembler à tout le monde. Et c'est quoi tout le monde sur LinkedIn ? C'est l'image commune avec l'homme blanc, cis, hétéro de 50 ans. Eh ben non, en fait, moi j'arrive, j'ai mes tatouages de partout, je suis lesbienne, et alors en fait ? Ouais. Et en plus, j'ose faire de l'humour et je suis une femme ! Mon Dieu ! Eh ben, et pourtant, j'ai un public pour ça, j'ai des sollicitations pour ça, et ça, franchement, rien que ça, juste si on s'arrête là, c'est une victoire de ouf, quoi.
Totalement, parce que, évidemment, moi, c'est exactement l'image que j'ai de LinkedIn, une sorte de réseau social un petit peu fascisant, blanc, hétéro, mâle et tout. Et j'y vais peu. Mais alors, depuis que j'ai lu ton livre, eh ben, je me dis, ouais, il y a des trucs à faire. Il y a un territoire, en fait, à conquérir. Et ouais, le lobby LGBT va conquérir le territoire LinkedIn grâce à ton bouquin. Comment tu l'as travaillé, justement, ce livre ? Parce que du coup, il y a beaucoup de connaissances sur LinkedIn.
Alors, le plus dur quand tu écris un livre, c'est vraiment la structure et l'organisation. Parce qu'une fois que finalement, tu as ton sommaire et tu as tes sous-parties, ça déroule. Parce que si on m'a aussi sollicité pour un livre de formation, c'est pas seulement parce que j'ai de la visibilité, c'est parce que c'est mon expertise, c'est mon sujet. Donc, le plus dur, c'était vraiment ça, c'était de me faire un plan pour savoir où je vais. Et puis après, vraiment, ça allait tout seul, il n'y avait aucun souci. Après, il y avait aussi le travail de coordination avec les illustrations pour que ça colle bien à chaque thématique. Mais voilà, tu sais, c'est les grands axes, quoi. Il y a toujours l'optimisation de profil, le copywriting, donc l'art de transformer les mots en euros, la ligne éditoriale. Après, le challenge, c'était comment j'allais le tourner. En fait, franchement... Le plus dur, ça n'a pas tellement été le sujet en lui-même, ça a été le challenge que je me suis mis vis-à-vis des punchlines. Ouais. Parce que comme je voulais mettre pas mal d'humour, des fois, je bloquais sur une page, mais ce n'était pas pour le sujet, c'était vraiment pour me dire, attends, quelle métaphore je vais pouvoir utiliser et tout. C'est plus ça. Mais là, le travail, il s'est fait sur le long terme. Donc, tu fais des propositions à la maison d'édition, ensuite, tu as des retours pour... On va dire que ça soit plus équilibré, c'est souvent ça en fait, hein. Tu sais, c'est un peu bête, mais parfois tu t'en rends pas compte, mais tu vas avoir une partie qui va être beaucoup trop fournie par rapport à une autre.
Ouais, c'est donc, bon, d'accord, ouais, faut optimiser tout ça.
Et c'est plus un travail d'optimisation, mais en réalité, tu vois, un livre de formation, c'est pas un roman, c'est... Il n'y a pas vraiment de travail imaginatif ou créatif, enfin, du coup, sauf pour les punchlines. Et du coup, pour Billy qui a fait les illustrations. Mais pour moi, c'est mon domaine, c'est mon expertise. Donc,
Que c'est aussi ton travail. C'est-à-dire que tu peux écrire des posts pour des entreprises, c'est ça ?
Oui, c'est ça. En fait, je suis ghostwriter, donc je suis prêt de plume. On traduit en français pour ceux qui ne connaissent pas. Et en fait, le but, c'est d'écrire les posts LinkedIn d'une cible. La mienne, c'est les chefs d'entreprise et les dirigeants. Donc, chaque ghostwriter a ses thématiques de prédilection. D'ailleurs, certains ne choisissent pas. Ils prennent un petit peu tout ce qu'on leur propose. Moi, c'est vraiment uniquement sur la marque employeur. Donc, du coup, je vais écrire typiquement sur la culture d'entreprise, la diversité et l'inclusion, le bien-être au travail, le télétravail, le management, le recrutement, etc. Parce que c'est des sujets qui me passionnent. Et je prends beaucoup la parole aussi dessus sur mon LinkedIn. Du coup, voilà, il y a aussi une cohérence pour que j'en parle pour les chefs d'entreprise qui ont plein de choses à dire aussi dessus. Hein. C'est leur problématique de la vie de tous les jours.
Oui, oui, bah, de toute façon, tu es une personne assez vraie, ça se voit, tout, ça se voit assez vite, donc oui, tu le fais avec...
Je fais pas semblant.
Avec tes convictions. Et du coup, tu parlais de Billy. Ce livre, c'est Billy qui fait les illustrations. Comment tu pourrais nous présenter Billy ?
Alors, Billy, c'est la personne avec qui je suis mariée, qui est quelqu'un de très sensible, avec beaucoup d'émotions, donc... C'est quelqu'un, malheureusement, qui n'a pas beaucoup confiance en ses compétences et en son potentiel. Donc, je suis vraiment hyper contente, que Billy ait eu ce projet de livre qui soit possible. Parce que ça permet vraiment de valoriser son travail, de valoriser tout son talent, finalement. Alors qu'à côté de ça, tu lui dis... Il y a beaucoup d'illustrations qui sont publiées sur Insta et à chaque fois, quand il y a des gens qui envoient un message pour dire « Ah, c'est super ce que tu fais, les illustrations, elles sont trop belles et tout », il y a toujours cet effet « Ouais, non, c'est pas génial, c'est nul, les gens, ils sont juste gentils », toujours à diminuer, ses capacités et toujours à justifier, en fait, les compliments par la gentillesse des gens. Donc là... C'est une énorme preuve sociale quand même, ce livre, parce que voilà, ça reste les éditions Vuibert, c'est le groupe Albin Michel. Donc, De toute façon, là, il faut réaliser que le livre est fait, que les retours sont très bons, limite beaucoup plus sur les illustrations que sur l'écriture.
On attend la BD, en fait, maintenant, Billy.
C'est ça, on attend la BD et tu vois, les gens sont contents aussi parce que c'est différenciant et qu'il y a des illustrations dans un livre de formation. Mais il y a vraiment...
Elles sont bien, les illustrations.
Elles sont magnifiques, il y a un talent fou derrière et d'avoir tous ces retours des gens qui lui disent c'est génial ce que tu as fait et tout. Bah, ça rentre, mine de rien, dans la tête. Tu vois, et à un moment, je sais qu'il y aura plus de confiance et que du coup, il y aura moins ce discours finalement du syndrome de l'imposteur de dire je suis pas légitime. Il y a des vrais illustrateurs. Moi, je suis pas crédible dans le milieu. Non, pas du tout. Tu as du talent, point. Et c'est ce que les gens lui mettent dans la tête, c'est ce que moi je lui mets dans la tête et ça rentre.
Généralement, ça vient au bout d'un moment. Ouais. Et du coup, commencer de travailler avec la personne qu'on a épousée.
Franchement, c'était super facile.
Je vais pas
casser le truc en mode non, mais travailler en famille, c'est dur. Franchement, pour nous, ça a été super facile parce que finalement, c'est toujours pareil, c'est une question d'organisation. Moi, je savais exactement où j'en étais au niveau de mon sommaire et de ma trame. Donc, du coup, si tu veux, moi, j'avais la casquette un peu scénaristique. Je savais aussi le type d'illustration qui était nécessaire en fonction des parties. Donc, je lui ai passé un peu un bon de commande. Je lui ai écrit un peu les scénarios de chaque illustration. Je lui ai dit, voilà, telle scène, tel texte dans les bulles, etc. Donc, du coup... les illustrations étaient faites. S'il y avait des questions ou des besoins de réajustement, on communiquait. Et franchement, c'était extrêmement fluide. Et ni source de conflit, ni rien. Au contraire, franchement, c'était super parce que...
Ça rapproche, du coup ?
Ouais, oui, ça rapproche parce qu'en même temps, tu vois le travail créatif juste à côté de toi. Ouais. Moi, j'écris. À côté, il y a les illustrations qui sont en train de se faire et tu réalises à quel point ça avance, en fait. Et il y a cette petite satisfaction-là de voir ça. Et en même temps, tu sens quand même que malgré tout, la confiance, elle se prend. Parce que quand on en vient à la moitié du chemin ou à la fin du chemin et qu'on se dit... on avance énormément et il y a déjà soit 50% des dessins qui sont faits, soit 100%. Même s'il n'y a pas beaucoup de confiance de son côté, il y a quand même le sourire de dire, et je le sens, ouais, je l'ai fait et c'est cool, quoi. Donc même de voir son évolution émotionnelle dans, malgré tout, même si c'est pas tout, on n'est toujours pas sur une grande fierté, une grande estime de soi, on ne va pas se mentir. Il y a toujours un travail là.
Pourtant, il faut de la fierté, Billy.
Hein. Oui, c'est très bien. Mais oui, mais surtout qu'il y a beaucoup de talent. Je voyais quand même plus de réassurance et de satisfaction plus on avançait dans le projet. Mmh. Et franchement, pour moi, c'est une énorme satisfaction parce que il y a encore une fois un grand talent derrière derrière tout ce qui est fait. Donc moi, je suis très fière de cette collab. Quoi.
Bosser à deux, ça doit être ouf quand même. Bosser en couple sur un projet, ça te permet quand même de construire ensemble, d'éviter le découragement s'il y en a.
Oui, mais en fait, c'est ça. On avait ce côté un peu sparring partner, tu vois. On était partenaire d'entraînement. On était là à se remotiver s'il y avait un coup de mou. On est des humains, tu vois. À un moment, des fois, il n'y a pas d'inspi pour écrire. Des fois, il n'y a pas d'inspi pour dessiner. Ou juste, il n'y a pas l'envie, en fait, tu vois. Ou alors, des fois, on se dit, ouais, le timing était trop court. Ça va être chaud. Et il y a toujours ces good vibes qu'on peut s'envoyer. Et ce n'est pas comme si seulement on était en collab pur. Il y a ce côté aussi amour où ça donne une étincelle différente, tu vois. Donc, en vrai, je sais que pour certaines personnes, c'est un cauchemar de travailler en couple. Mais pour nous, au niveau de nos caractères, on est super complémentaires. Franchement, c'était génial.
Je voudrais continuer à te parler de ton travail. Tu es aussi experte en qualité de vie au travail. On en a besoin, il y a beaucoup d'entreprises qui en ont besoin. Comment t'en es arrivé là ?
Écoute, j'en suis arrivée là en m'intéressant énormément aux problématiques RH, aux problématiques managériales. Déjà, moi, de base, j'ai fait du management.
D'accord.
Donc, j'en ai vu des problèmes en entreprise, j'en ai vu pas mal. J'en ai vécu aussi quand j'étais employée. Et... j'ai pas honte de dire que pour moi, le monde du travail, il est malade aujourd'hui. C'est une réalité. Et c'est pas du pessimisme, c'est du réalisme. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'Institut Opinionway qui a sorti un chiffre qui est assez dramatique. 44% des salariés sont en situation de détresse psychologique.
C'est énorme.
C'est énorme. Donc, moi, je pense que le meilleur endroit pour en parler, c'est un réseau social professionnel. En toute logique, quasiment tous les patrons sont dessus, les salariés sont dessus, les chercheurs d'emploi sont dessus. C'est à eux, en fait, qu'il faut, à qui il faut s'adresser pour bah, se poser des questions, pour soulever le débat, pour en gros leur dire mais qu'est-ce qui se passe en fait, pourquoi on en est là. Donc moi, je suis arrivée assez vite en fait dans cette démarche-là sur LinkedIn, de remuer les consciences, de libérer la parole et de partager mes expériences qui parfois sont roses, parfois ne l'étaient pas du tout dans le monde du travail. Toujours dans ce but-là, que les personnes qui soit vivent ça maintenant, soit ont vécu ça, bah, se sentent moins seules en fait. Mmh. Et pour aller un peu plus loin aussi dans le sujet, j'ai créé un podcast qui s'appelle Dorit raconte, où du coup bah, les salariés, les stagiaires ou les alternants harcelés, ou même les dirigeants, hein, bien sûr, parce que ça peut arriver, hein, un cadre peut tout à fait être harcelé aussi, peuvent venir dans mon podcast et témoigner d'une situation de souffrance au travail qu'ils ont vécue. Souffrance au travail, c'est hyper vaste, ça peut être du harcèlement moral, ça peut être bien du harcèlement sexuel, des LGBT+ phobies, de la discrimination sur la seniorité, enfin, ça peut être malheureusement beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et je pense qu'aujourd'hui, bah, y a une nécessité à se positionner sur ces sujets-là. Et c'est vrai que petit à petit, sans m'en rendre compte, hein, je vais te dire la vérité, on m'a qualifiée d'experte marque employeur et recrutement. Là, récemment, j'ai fait un plateau télé. On ne m'a pas sollicité pour la bannière de présentation. J'ai été automatiquement catégorisée comme experte marque employeur et recrutement. Ce que, évidemment, je ne me considère pas du tout... comme tel, parce que voilà, j'ai pas cette prétention-là, mais c'est à force de prendre la parole sur ces sujets, c'est à force aussi de m'y intéresser, d'observer, de documenter, de relayer des infos, et je pense que voilà, enfin, il y a aussi une part énorme où on peut être autodidacte et s'imposer comme, entre guillemets, bah, je dirais pas une référence, mais en tout cas, quelqu'un qui attire la confiance sur un sujet, quoi. Et je suis contente aujourd'hui de l'être sur la qualité de vie au travail, parce que ça me tient énormément à cœur. Et c'est plus que nécessaire en 2023, parce que malheureusement, on est loin de l'avoir trouvé, quoi.
Bah oui, comme tu disais sur les chiffres 44%, moi, ce que j'aime bien dans ton profil sur LinkedIn et dans ton livre, c'est que t'éclates. Alors, je fais une comparaison de guerre, désolé, mais avec une sorte de bulldozer, en fait. T'arrives comme un bulldozer pour vraiment, merde, tout péter et genre... Je m'en fous. Et en même temps, tu te racontes, que tu as... Alors, c'est un peu plus personnel, mais tu racontes que tu t'es retrouvée à la rue très jeune. Est-ce que tu veux nous partager cette expérience ?
Oui, bien sûr. J'ai aucun tabou à en parler. Alors, moi, j'ai pas eu une vie facile et j'ai pas de mal à en parler parce que je pense que mon parcours, il peut inspirer des personnes et les aider à garder espoir qu'un futur meilleur existe parce que malgré tout, j'en suis la preuve. J'ai grandi dans un HLM dans le 94. J'étais une enfant battue. J'allais au Resto du Cœur avec ma mère. J'ai été harcelée à l'école. Et quand ma mère m'a mise à la rue à 18 ans, j'ai été SDF. Donc j'ai été prise en charge par une association pour jeunes sans-abri. Je me suis retrouvée dans un hôtel meublé, rempli de punaises, mais je m'en foutais parce que j'avais un toit sur la tête. Ensuite, ils m'ont placée en foyer de jeunes travailleurs, mais pareil, je m'en foutais, j'avais un toit sur la tête. Je me suis dit, dans le monde du travail, je vais peut-être trouver un petit peu de sécurité. Et bah, pas du tout. Mon premier job, j'ai été harcelée moralement pendant 3 ans. Ensuite, ça a continué. Il y a eu du harcèlement sexuel dans d'autres expériences. J'ai fait un burn-out. Ça a été assez difficile. Puis, il y a eu la partie recherche d'emploi, où justement, ça donnait rien, quoi. Je recevais que des mails de refus automatiques sur mails de refus automatiques. Donc... je me disais que finalement, ma vie, ça allait être des jobs alimentaires et que j'avais pas le droit à des rêves, que la réussite, c'était pour les gens qui soit sont pistonnés, soit ont fait des grandes études. Et c'est pas mon cas parce que moi, j'ai pas de diplôme et j'ai fait aucune étude. J'ai un bac littéraire obtenu à Alfortville dans le 94, donc ça, autant te dire que ça vaut pas grand-chose. Et j'ai jamais perdu espoir. Donc au bout de 10 ans de job alimentaire sans trouver de sens réellement dans ma vie, je me suis posée et je me suis dit, qu'est-ce que tu veux faire réellement ? Et là, je suis revenue à mes premiers amours qui est l'écriture. Donc, quand j'avais 16 ans, si tu veux, j'ai écrit 3 blogs sur Skyrock, Skyblog à l'époque. Et j'ai eu une reconnaissance de Skyblog sur chacun de ces blogs. J'ai été élue blogstar.
D'accord.
Donc, j'ai été en page d'accueil de Skyblog sur chacun de mes blogs pendant 1 mois. Ce qui m'a donné beaucoup de visibilité, beaucoup de reconnaissance et surtout, c'est ce qui m'a montré que j'avais peut-être un talent d'écriture. Et je ne l'ai jamais oublié, ça. Et c'est ce qui a fait que j'y suis revenue 10 ans après et que j'ai voulu trouver un job dans la communication digitale et que j'ai cru surtout que c'était possible. Et ça donnait rien via les plateformes classiques, via Pôle emploi, Indeed, ouais, c'est ça. Et quand je me suis lancée sur LinkedIn, c'était un peu sans conviction, mais c'était parce que c'était ma dernière chance. Et ça m'a ouvert toutes les portes parce que, encore une fois, j'ai misé sur l'authenticité, mais j'ai fait un post sur les tatouages en milieu professionnel où je disais qu'en fait, les compétences passent avant l'apparence et que l'apparence d'un candidat, on s'en fout en fait. C'est pas ça qui va déterminer si la personne, elle a du potentiel ou pas. Et ce post, il a fait plus de 2 millions de vues et plus de 23 000 likes. Et il m'a rapporté plus de 200 propositions d'emploi.
Mais c'est énorme.
C'est énorme. Et c'est là où je me suis dit, ça y est, t'y es en fait. Et j'ai même eu le choix du roi parce que 200 propositions dans ce que je voulais, dans la communication digitale. Et puis ensuite, progressivement, j'ai réussi à prendre confiance en moi parce que quelques mois après, comme tu dis, j'ai monté très, très, très vite. Hein. Cette publication dont je te parle, c'était un mois après que je me sois vraiment lancée sur LinkedIn. Et dans la foulée, j'ai BFM Business qui m'a proposé d'être chroniqueuse. Quelques mois après seulement, j'avais déjà 40 000 abonnés en sachant que je partais de nulle part. Et là, je me suis dit, bon, tu as un public qui est déjà là, qui t'attend. Peut-être que tu vas te faire confiance et que tu vas te lancer entrepreneur. C'est là que je me suis demandé ce que je savais faire et aussi ce que j'aimais faire et que je suis tombée sur le ghostwriting et sur la formation LinkedIn. Mais ce n'était pas du tout une évidence pour moi parce que, comme tu l'as dit, ma mère m'a mise à la rue quand j'avais 18 ans. Donc, moi, j'avais une peur panique de l'insécurité. C'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup porté préjudice dans ma vie. J'avais un besoin de stabilité énorme. Et pour moi, alors, c'est plus valable aujourd'hui parce qu'en réalité, un employeur, il t'invente une faute grave, il te fout dehors en même pas 15 jours. Donc, la sécurité du CDI, en réalité, elle est illusoire.
Mais tu as plus de sécurité en tant qu'entrepreneur ?
Franchement, en fait. Oui, c'est une idée reçue. Mais tu vois, bêtement, moi, je pensais que CDI égale sécurité. Et par contre, ça, c'est une réalité. Entrepreneuriat égale instabilité. Mais ça, c'est vrai, par contre. Oui. Ça, c'est vrai. C'est hyper irrégulier. Tu as des clients qui rentrent, qui sortent. Tes rentrées d'argent, ça peut faire x2, x3, x4. Après, ça divise par 2. Enfin, c'est
après, ils oublient de te payer. Mais on n'a pas vu votre facture. Elle est où ? J'ai pas réussi.
Non, mais c'est ça. Tu dois courir et tout. Donc, c'était dur pour moi de me lancer entrepreneur. Je te jure que je me suis fait violence. J'ai cassé tellement de barrières mentales. Ça m'a terrorisée. Mais je l'ai fait. Et aujourd'hui, je ne regrette pas parce que je gagne très bien ma vie. Et tout ça, c'est un chemin de vie que LinkedIn m'a apporté. C'est pour ça que ce réseau, je suis hyper reconnaissante aussi. Après, j'ai travaillé. Hein. Je ne vais pas dire que je suis arrivée sur LinkedIn et tout est tombé du ciel. Non, j'ai travaillé. Mais je suis très reconnaissante parce que sincèrement, moi, je crois beaucoup que dans la vie, tout est une question de rencontre et de moment. Et c'était le bon moment pour moi d'être sur LinkedIn pour enfin révéler mon potentiel et mes compétences. Et je me rends compte du chemin accompli. Et ouais, je t'avoue que je suis plutôt fière quand même.
Je ne sais pas si j'ai envie de revenir sur ce que ta mère a fait.
Ouais, vas-y. Non, mais tu peux.
Mais c'est parce que tu étais majeure qu'elle t'a mise dehors ?
Non, en fait, ma mère a des problèmes psychiatriques, je pense, depuis que je suis toute petite, mais elle ne s'est jamais fait expertiser par personne parce qu'en fait, tu écoutes ma mère, le problème, c'est les autres et tout le monde lui veut du mal. Il y a vraiment un truc réellement paranoïaque derrière ça. Mais depuis petite, moi, je me réveillais le matin, c'était pute, salope, tu devrais mourir. Et c'était beaucoup aussi un système de chaud-froid. C'est-à-dire qu'un jour, je suis la personne la plus exceptionnelle que cette terre porte. Et c'est même pas un jour, en fait. C'est lundi à 12h15, je suis la 8e merveille du monde. Et lundi à 13h20, je suis une grosse pute, je mérite de mourir. Il faut que Dieu il me tue et j'aurais jamais dû naître. Et elle aurait dû m'avorter. Et j'ai grandi dans cet écosystème-là, tu vois.
Mais comment t'as réussi à te construire comme tu es aujourd'hui, en fait ?
C'est ce que me demande ma psy. En fait, si tu veux, c'est marrant parce que j'ai raconté toute mon histoire à ma psy. Forcément, c'est aussi le but quand tu consultes. Et vraiment, elle est restée comme ça. Et je te jure que je ne l'avais jamais vue comme ça. Elle avait un peu les larmes aux yeux. Elle m'a dit, mais comment vous en êtes sortie ? Et moi, j'ai un peu de mal à répondre à cette question parce que moi, je réponds toujours que je pense que j'ai toujours conservé une part d'innocence et de fraîcheur. Tu vois, là, j'ai un t-shirt bizarre, c'est Pokémon. Donc, moi, je pense que c'est ça qui m'a sauvée. Ma psy n'est pas du tout convaincue de ça. Elle a levé les yeux au ciel, elle m'a dit non. Moi, je pense que vous êtes une vraie résiliente et que vous êtes née de naissance avec une force intérieure et des capacités émotionnelles qui dépasse largement celle du commun des mortels. C'est la théorie de ma psy, et c'est peut-être vrai ou pas, mais en tout cas, je ne sais pas.
En tout cas, tu étais très bien construite, ouais. Parce que pour le coup, c'est assez. J'avais pas les détails justement de ton histoire personnelle, qui pour le coup, moi me touche terriblement ce que tu me racontes.
Ouais, mais je te dis, moi, ça n'a pas été une surprise quand elle m'a mis dehors quand j'avais 18 ans, parce qu'il y a vraiment eu cet ascenseur de violence. Il y a des gens, je ne sais pas qui ont porté plainte pour maltraitance quand j'avais 9 ans, probablement des voisins, parce qu'effectivement, j'étais une enfant battue. La policière, elle est venue à l'école et elle est venue me chercher dans la classe pour m'interroger. Et ma mère, elle savait que ça se passerait comme ça. Donc, elle m'a préparée. Et elle m'a dit, maman, elle t'aime, il faut que tu dises que maman, elle est gentille avec toi, qu'elle fait rien, etc. Donc, moi, c'est ce que j'ai dit à la policière, sauf que la réalité, c'est que j'avais des bleus sous mon pull. Bon, après, elle n'a pas cherché forcément à en savoir plus. Mais du coup, voilà, il y a eu cet ascenseur de violence psychologique, de violence physique, vraiment depuis que je suis petite. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai passé ma vie à être menacée d'être mise dehors depuis petite.
Sauf que bon, tu t'y préparais du coup ?
Bah oui, parce que enfin, à un moment, tu te dis qu'est-ce qui va se passer effectivement quand j'aurai 18 ans. Alors, elle m'a pas mis dehors le jour de mes 18 ans, mais en réalité, si tu veux, moi sur LinkedIn, je parle d'une seule fois où elle m'a mis dehors, parce que c'est la fois où je ne suis pas revenue. D'accord. Mais elle m'a mis dehors 3 fois en réalité.
Oh, putain.
Par contre, la 3e fois quand elle m'a mis dehors, il s'est passé quelque chose de particulier, c'est que en fait, elle m'a mis une claque tellement fort que, et pourtant à l'époque, j'étais en surpoids. J'ai volé vraiment dans la pièce. Je suis tombée à la renverse et j'ai glissé en arrière. Et j'avais l'habitude qu'elle me frappe, mais je pleurais plus à force. Et ben là, j'ai pleuré instantanément, tant la violence de la claque, elle était forte. Et là, je me suis dit, tu ne reviendras plus jamais. Et même si tu dois mourir sous un pont, c'est terminé en fait, parce que tu ne peux plus vivre cet enfer. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a mis la claque et elle m'a dit, je te mets dehors, mais pas maintenant. Je te mets dehors à 6h du matin. Parce qu'il était, je pense qu'il était un peu tard, on devait être en début de soirée. Et elle m'a dit, par contre, je vais rester réveillée toute la nuit pour être sûre que tu voles rien ici. Ah oui, oui, oui. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'elle a passé la nuit vraiment réveillée, assise. Enfin, j'allais dire au salon, mais en fait, on vivait à 3 dans un 20 mètres carrés dans un studio, mais voilà, dans la pièce. Et moi, j'ai passé la nuit dans la terrasse, et je peux te jurer qu'elle a passé la nuit entière à me regarder. Moi, je faisais de l'ordi, je cherchais des solutions pour m'en sortir et tout. Elle a passé la nuit entière.
Donc, tu n'étais même pas sur la. Oui, tu étais tout de suite dans l'après en disant.
Oui, je
savais quoi.
Oui, mais elle l'a vraiment fait en tout cas. Elle a passé la nuit à me regarder et je peux te jurer qu'à 6 heures du matin, elle s'est levée et elle m'a dit c'est bon, tu dégages. Et là, j'ai pris mon sac, j'ai mis mes affaires. À l'époque, j'étais boursière vu que j'étais à la fac, donc je me payais mes propres vêtements. La moitié des vêtements que j'ai mis dans mon sac, elle me les a fait enlever alors que je les ai payés avec mon propre argent. Et elle m'a dit
c'est
non.
C'est l'humiliation, là.
Oui, ça, je les garde pour ta petite sœur. Elle était là à regarder chaque chose que je mettais dans mon sac. Et les derniers mots qu'elle m'a dit quand elle m'a mis dehors, c'est « j'espère que tu vas te faire violer ».
Quelle horreur.
Voilà dans quelles conditions j'ai été mise dehors. Et encore une fois, je te le jure, je me suis dit, mais il peut m'arriver de tout, mais j'en ai rien à foutre. Jamais de la vie, je n'y retournerai. Jamais, 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 jamais.
Et tu t'y es tenue, du coup ?
Oui, oui. Et pourtant, c'était exactement la même configuration. J'ai été hébergée par quelqu'un que je pensais être un ami, qui, en fait, travaillait dans une boîte d'intérim. Il était commercial et il a répondu à un statut Facebook de désespoir que j'ai fait. Où je disais, j'expliquais pas ma situation, mais je disais, j'ai besoin de trouver un logement et un travail en urgence. Je savais déjà que je pourrais pas continuer la fac et qu'il faudrait que je m'en sorte. Et il m'a tout de suite dit, Dorit, viens à la maison, ma femme, elle est enceinte. Pour l'instant, on a une chambre qui est là pour le futur bébé, mais c'est pas du tout tout de suite, donc tu es la bienvenue. Et en plus de ça, je bosse en intérim, donc je pourrais te trouver du boulot. Ce mec, je le connaissais depuis des mois, je pensais que c'était mon ami, donc évidemment que je suis allée chez lui, en fait. Et en plus, je sais qu'il est avec sa copine, donc il ne va rien essayer de bizarre ou quoi, tu vois. Donc, je vais chez lui. Et en fait, moi, les boulots qu'il me propose, ça ne m'intéressait pas. Il me proposait un contrat un peu bancal où, en fait, tu devais faire un job de serveuse en crêperie, par exemple, où tu serais payé 500 ou 600 euros par mois. Et en parallèle, tu étais obligée de faire une formation de commercial qui ne m'intéressait pas du tout, en fait. Et c'était imposé. Et du coup, moi, gagner 500 ou 600 balles par mois, alors que je suis totalement en capacité de faire un temps plein et que c'est ce que je recherchais, ça ne m'intéressait pas. Donc, je déposais des CV à côté. Et j'ai été prise, justement, dans un autre job. Et moi, j'étais super contente. Donc, je suis allée l'annoncer à la boîte d'intérim. Mon pote, il n'était pas là. Il y avait son patron qui était là. Et quand je lui ai annoncé, mais il a explosé de rire. Il m'a dit, mais vous êtes stupide, ma pauvre. Il en a rien à foutre de votre gueule. Tout ce qu'il veut, c'est sa prime en vous casant dans une mission d'intérim. Dès qu'il va apprendre que vous avez trouvé un boulot ailleurs, il va vous foutre dehors, en fait. Et moi, j'y croyais pas.
Pardon ?
Ah oui, oui, oui. Moi, j'y croyais pas. Donc, je suis rentrée. Il n'était pas là. Dans le doute, j'ai fait mon sac. Et j'ai attendu sur le lit pendant plusieurs heures qu'il rentre. Il est rentré. On n'a même pas échangé un mot. J'ai vu son regard. Enfin, si. Du coup, je lui ai dit, du coup, je dois partir. Il m'a juste dit oui. Et je suis partie. Et là, peut-être qu'en temps normal, je serais revenue chez ma mère. Mais là, je n'en avais rien à foutre. Et c'est là où la Providence, elle m'a aidée. C'est qu'en fait, il y avait un copain de qui je n'avais pas de nouvelles depuis très longtemps, qui vit en Corse, qui m'a juste envoyé « Salut, ça va ?» Le message le plus innocent du monde. Et là, je lui dis « Non, Gilles, ça ne va pas du tout. Pour la énième fois, je me retrouve encore à la rue et tout. » Et de là, il m'a dit « Va dans une boutique de skate en plein centre-ville de Nice, que beaucoup de Niçois connaissent parce que c'est la seule. J'ai une copine qui est responsable de cette boutique et qui a le cœur sur la main. Je vais lui parler de toi et je sais qu'elle pourra t'héberger. » C'était un couple, en fait. C'était Léa et Mathieu. Et je suis toujours très émue quand j'en parle parce qu'en fait...
Ça se voit.
Ouais, elle ne me connaissait pas, tu vois. Et elle m'a donné immédiatement les clés de chez elle et elle m'a fait confiance.
Et du coup, Léa te file ses clés, elle ne te connaît pas.
Elle ne me connaît pas, elle me fait confiance tout de suite et elle m'héberge 2 semaines avec... tellement de cœur, tellement d'émotion, tellement de bienveillance, tellement d'humanité. Et elle m'aurait hébergé plus, hein, elle me l'a dit. Mais en fait, il s'est trouvé que moi, je ne voulais pas dépendre des gens. Donc, j'avais démarché une association pour jeunes sans-abri qui m'a rappelé à ce moment-là, donc au bout de 2 semaines où j'étais chez Léa, pour me proposer une place en hôtel meublé. Et c'est comme ça que je suis partie. Et elle était étonnée parce qu'elle m'a dit « Mais tu restes que 2 semaines, tu peux rester plus. »
C'est adorable.
Elle était adorable. Elle était là au mariage. Léa, bien évidemment, elle était là au mariage. Et voilà, c'est quelqu'un qui compte beaucoup dans ma vie parce que... tu vois, quand tu vis des telles choses avec tes parents, tu peux perdre... Enfin, avec ma mère, parce que je ne connais pas mon père, tu peux perdre espoir en l'humanité, en plein de choses. Et surtout quand tu fais des mauvaises rencontres, j'en ai fait beaucoup parmi toutes mes colocations, des gens que je pensais être mes amis, etc. Quand tu rencontres quelqu'un d'aussi pur, avec vraiment aucune once de méchanceté, qui veut juste t'aider, c'est incroyable. Et voilà, du coup, je peux rien te dire de négatif sur elle parce que j'ai passé 2 semaines où elle a tout fait pour que je sois bien. Elle était prévenante. Elle m'a jamais fait me sentir mal à l'aise ou de trop. Quand des fois ils avaient des soirées chez leurs amis, des restos, ils m'emmenaient toujours avec eux.
C'est t'as quel âge
des à ce personnes moment-là. Exceptionnelles. Bah j'avais 18 ans en fait.
D'accord, ouais, ouais. C'est tout de suite après, ouais.
Ouais, ouais, ouais.
Ça t'a montré qu'il y a des êtres humains qui sont présents, bienveillants et positifs. C'est cool.
C'est ça. La seule chose que je pourrais reprocher à Léa, c'est son chat qui faisait que me griffer à chaque fois qu'il me croisait. Mais elle le savait parce qu'elle l'a appelé Carnage. Mais il l'a griffé aussi. Hein. Son chat, c'était un fou. Mais non, c'est une personne incroyable. Et d'ailleurs, moi, mon modèle managérial, c'est Léa. Tu vois, Léa, il y a quelque chose... On discutait beaucoup. Il y a quelque chose qui m'a toujours marqué chez elle, et j'en ai parlé sur LinkedIn et j'en parle beaucoup autour de moi, c'est qu'elle m'a raconté que la direction du magasin de skate où elle était voulait lui donner une prime, mais que à elle en fait, parce que les résultats de la boutique étaient très bons, et ils lui ont demandé de le cacher au vendeur en fait. Et elle en fait, elle a dit, mais c'est hors de question. C'est pas moi toute seule qui ai fait les primes, c'est toute l'équipe. L'équipe, elle a charbonné. En plus, Elia gagnait pas des milliers de cents, mais un vendeur est toujours payé moins que le responsable. Ils sont au SMIC. Et à un moment donné, arrêtez de déconner, quoi. Et eux, en gros, ils lui ont dit, c'est ça ou rien. Donc voilà, si vous prenez pas la prime, en gros, vous aurez rien parce que nous, on donnera rien aux vendeurs, en fait. Donc qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a pris la prime et elle l'a divisée avec tous les vendeurs, quoi. Elle leur a donné. C'est... Putain, et ouais. Elle leur a jamais dit, en fait, si tu veux, exactement comment ça s'était passé, parce qu'elle m'a dit, elle savait que ça allait les démotiver, et c'est absolument normal. Comment tu peux expliquer à tes vendeurs que bah, la direction, ils estiment que vous ne méritez pas de reconnaissance ?
C'est les premiers de ligne, quoi. C'est les premiers de cordée.
Mais c'est épouvantable. Et elle, elle avait ce management-là, ce management humain, ce management où elle les a même menacés de démissionner. Elle a dit, mais en fait, moi, je ne vois pas... Je ne vois pas le monde comme vous, en fait.
Mais c'est... elle y travaille toujours dans cette boutique.
Non. Oula, ça fait, ça, je crois que ça fait au moins 7 ans qu'elle y est. D'accord. Plus. Moi, quand j'entendais ça, j'avais des paillettes dans les yeux. Ouais. Je me disais, mais
c'est
moi...
C'est un bel exemple pour toi, en fait. Parce que pour le coup, tu as un modèle d'un coup.
Oui, en plus, j'étais vendeuse à ce moment-là. Mais moi, je me disais, si un jour je suis manager, je veux être comme elle. C'était mon héroïne, tu vois. Ah là là, Eléa.
Bravo,
beaucoup
Eléa.
D'émotion en parlant d'Eléa, c'est quelqu'un de formidable. Et avec beaucoup de fierté, évidemment, je lui ai envoyé mon livre. Avec une très belle carte, avec beaucoup de reconnaissance, beaucoup de gratitude.
Ah, c'est cool. Bah, alors moi, je conseille à tout le monde de lire ce livre. Ça donne un autre regard sur ce réseau social de LinkedIn. Et surtout, ton compte, enfin ton profil, est visible. Elle est faite grâce à des personnes comme toi. Parce qu'on a besoin de rôle modèle. Et waouh, quoi. Je te remercie du fond du cœur d'avoir partagé ton histoire avec nous. Ça m'a touché. Tu prouves une fois de plus qu'on peut être authentique, réussir et s'en foutre des autres, des haters, de ce qui peut nous faire tomber. Donc merci infiniment, Dorit.
Merci beaucoup à toi. C'était super de discuter avec toi. Et, je suis vraiment trop contente d'avoir participé, comme tu dis, à la visibilité LGBT+, et de continuer à casser les codes. C'est super important.
Yes, merci beaucoup.